Bon, vu les prières, il y avait besoin de repos, visiblement, dans cette église. C'est bien, on était synchro, j'en avais besoin aussi. Mais là, je reprends la série sur Ruth, et il faut que j'attrape la zapette. Merci beaucoup. A priori, c'est bon, là-haut. Alors, c'est possible que vous ayez déjà entendu cette histoire, parce que c'est vrai que je puise assez allègrement dans des événements de ma vie pour illustrer mes prédications. Donc, excusez-moi si vous avez déjà entendu ça. Mais ça s'est passé le 16 juillet de l'an 2000, c'était un dimanche. Et le 16 juillet de l'an 2000, je lis depuis deux jours déjà les évangiles que j'ai récupérés auprès de l'aubergiste du gîte où je séjourne, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la première fois de ma vie que je lis l'histoire de Jésus. Je veux la connaître parce qu'un ami à moi, un chrétien, vient de mourir. Et dans l'après-midi, mon frère doit venir me récupérer à 5 km de l'endroit où je me trouve pour que je puisse assister aux obsèques. Dans mes mains, j'ai trois petits livrets, un bleu, un jaune et un vert. Ce sont trois évangiles. « J'ai pas trouvé le quatrième », m'a dit l'aubergiste. « Mais enfin, avec ça, vous avez déjà de quoi lire. » Et donc, à l'heure dite, je parcours à pied les 5 km qui me séparent du lieu de rendez-vous. J'arrive à l'heure, à la gare de Figeac, et j'attends mon frère qui a donc un trajet à faire, un trajet de 4 heures à peu près. À 14 heures, l'heure du rendez-vous, mon frère n'est pas là. À 15 heures, toujours pas là. À 16 heures, je commence à me demander un peu ce qu'il fait, donc je me rends à la cabine téléphonique de la gare pour essayer de joindre quelqu'un qui pourrait me dire à quelle heure il est parti. Personne ne sait me renseigner, donc je raccroche, et c'est là que mon regard accroche la petite tablette de la cabine téléphonique, parce que dessus, il y a un petit livret rouge posé face contre terre. Je le retourne, et vous l'avez compris, c'est le quatrième évangile, l'évangile manquant de la même collection. Alors, je suis franchement halluciné de ça. Je n'ai pas le temps de me remettre de mes émotions que déjà la voiture de mon frère arrive sur le petit parking de la gare. À cette époque-là, le Christ me travaille. Mais dans le monde d'où je viens, ces choses-là, ça n'existe pas. Je comprends bien qu'il s'est passé là quelque chose de vraiment pas banal, mais je n'ose en parler à personne parce que si j'en parle, on va voir mon émotion. Et on va comprendre que ça y est, j'ai perdu la raison, quoi. Ce que la foi appelle la providence, la raison l'explique. C'est évidemment une coïncidence. C'est une coïncidence étonnante, c'est vrai, mais enfin, c'est quand même une coïncidence. Ou alors, peut-être même que c'est un coup monté de l'aubergiste. Il m'aura entendu dire, à un moment donné, que je devais me rendre à la gare, et puis il sera allé glisser cet évangile dans la cabine téléphonique avant mon arrivée. Sait-on jamais, avec un peu de chance, j'aurai un coup de fil à passer, et puis je tomberai dessus. Les esprits cartésiens, en vrai, de mon point de vue, sont de tristes esprits. Parce que moi, j'ai vécu une expérience très belle dans cette petite gare. Une expérience qu'on peut sans doute expliquer de bien des manières, mais la manière qui m'a saisi ce jour-là, c'est aussi la plus intime, la plus poétique, la plus insaisissable pour la raison. Dieu est venu à ma rencontre. Dieu est là. Il est au plus proche. Il est là dans les petits et dans les grands détails de la vie. Et si tu veux le voir, eh bien c'est Ruth, ce matin, qui nous montre la voie. Ça ne passe pas. Merci. On va aller dans Ruth, chapitre 2, les versets 1 à 13. Mais avant, comme à mon habitude, je vais prier. Vous connaissez mes habitudes. Seigneur, à nouveau, nous voulons te redire notre reconnaissance pour ta parole. Cette parole que nous approchons avec respect et aussi avec beaucoup d'attente, parce que c'est ta parole, c'est ton souffle de vie qui est là, qui nous est transmis quand nous ouvrons cette parole, quand nous ouvrons la Bible, que nous la lisons, quand nous l'écoutons, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas une lettre morte, mais que c'est une lettre qui a été inspirée par un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. C'est ce à quoi nous nous attendons, Seigneur, à chaque fois que nous l'ouvrons. Nous nous attendons à ce que ta parole nous donne la vie. Parfois, c'est flagrant, saisissant, dans l'instant, et parfois, ça ressemble plutôt à la manne, au pain quotidien. On ne voit pas forcément exactement ce que ça fait, mais ça nous travaille de l'intérieur, à chaque fois. Merci pour cette grâce, Seigneur, et nous en faisons appel à ton Saint-Esprit pour que cette parole, nous l'accueillions avec, non seulement avec notre tête, mais surtout avec notre cœur, et qu'elle nous mette en mouvement à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, Ruth, chapitre 2, nous dit ceci. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi, je te prie, aller au champ pour glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était du clan d'Élimélec. Or, Boaz arriva de Bethléem. Il dit aux moissonneurs, « Que le Seigneur soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que le Seigneur te bénisse. » Boaz dit au serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui appartient cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie du pays de Moab. Elle a dit, « Laisse-moi, je te prie, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est venue ce matin et jusqu'à présent, elle est restée debout. Elle ne s'est assise que peu de temps dans la maison. » Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille. » Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Tu auras les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elles. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle se prosterna face contre terre. Elle lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et le pays de tes origines pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. » Elle dit, « Que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon maître. Tu m'as consolée, moi, ta servante. Tu as parlé à mon cœur, alors que je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Alors souvenez-vous, après la famine et le deuil, Noémie revient du pays de Moab à Bethléem. Et Ruth, sa belle-fille, veuve elle aussi, la suit. Ruth s'est convertie. Elle, la Moabite, a placé sa confiance dans le Dieu d'Israël. Et tel Abraham, qui a quitté Ur en Chaldée et les idoles de ses ancêtres, sans même savoir où il se rendait, Ruth a tout quitté pour rejoindre une terre même hostile à son peuple. Les Moabites ne sont pas franchement les bienvenus en terre d'Israël. Elle rejoint une terre où elle ne sera rien ni personne, mais elle rejoint une terre où vit un peuple de qui elle partage maintenant la foi. À l'arrivée à Bethléem, on l'a lu les fois précédentes, Noémie est amère, et non pas est amère, parce que sinon vous ne comprenez pas. Donc Noémie est amère. Noémie a tout perdu. Elle revient plus pauvre et plus misérable que lorsqu'elle était partie, 10 ans plus tôt, quand il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. La condition de Ruth et de Noémie est désespérée. Parmi tous les curieux et les curieuses qui sont venus voir le retour de Noémie, personne, à ce stade, ne leur a proposé leur aide. Alors, les options pour elles deux ne sont pas très nombreuses. En fait, il y en a deux, la mendicité ou la prostitution. Mais le dernier verset du chapitre 1 a aussi ouvert notre texte sur une petite espérance, parce que Noémie et Ruth, nous dit le texte, arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. les épis d'orge ont levé. Dans les champs, il y a de quoi se nourrir. » Et c'est Ruth qui réagit la première. Elle demande à sa belle-mère de la laisser aller glaner dans les champs. Et on pourrait se demander, mais pourquoi Noémie n'y va pas ? Pourquoi elle n'y va pas ? Elle est plus âgée, c'est vrai, mais enfin, elle a quand même fait le trajet de Moab jusqu'à Bethléem. A priori, elle n'a pas une condition physique qui l'empêche de travailler, même à un rythme peut-être moins soutenu que sa belle-fille. Le texte ne dit pas pourquoi elle n'y va pas, mais si on doit faire une déduction à partir de l'histoire qui nous est rapportée, peut-être qu'on peut imaginer que c'est son amertume qui l'en empêche. Parce qu'une chose est claire, c'est qu'elle a le moral dans les chaussettes, Noémie. Elle a du mal à imaginer que sa condition puisse s'arranger. Alors, en tout cas, Ruth va partir glaner seule. Et en vrai, ce n'est pas l'idée du siècle. Parce qu'elle va se retrouver, elle, une femme étrangère, veuve, isolée, dans les champs, au milieu de tout un tas de solides gaillards. Et il peut se passer bien des choses au milieu des épis d'orge. Alors, je ne le dis pas pour grossir le trait de sa condition, je le dis parce que Boaz lui-même trouve utile d'interdire à ses serviteurs de la toucher. Quoi qu'il en soit, elle a guère le choix. Il faut bien trouver de quoi manger, alors elle y va. Évidemment, elle ne va pas voler. En se rendant dans les champs pour y glaner des épis, en fait, elle se place sous la loi d'Israël. On lit en Lévitique 19, versets 9 à 10, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Pauvre et immigré, Ruth coche les deux cases. Alors évidemment, elle ne va pas ramasser grand-chose, mais comme disait Raymond Devos, trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Et il est pas tout à fait sûr d'ailleurs, dans ce pays qui n'avait pas de roi et où chacun faisait ce qui lui semblait bon, que les propriétaires terriens aient une quelconque considération de la loi de Moïse. Ruth, au verset 2, demande bien à Noémie qu'elle la laisse aller au champ pour glaner des épis derrière celui aux yeux duquel, je cite, « je trouverai grâce ». Donc pour Ruth, trouver des épis à glaner, c'est pas un dû auquel elle pourrait prétendre en vertu de la loi, mais c'est bien une grâce qu'elle espère recevoir de la part d'un propriétaire qui acceptera qu'elle prenne quelques épis pour se nourrir. Alors en fait, elle va trouver bien davantage, bien plus que quelques épis. Sur son chemin vers un peu de nourriture, Ruth va trouver son quatrième évangile. « Il se trouva, nous dit le verset 3, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était du clan d'Élimélec. Or, Boaz arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur que le Seigneur soit avec vous. Ils lui répondirent que le Seigneur te bénisse. » Il se trouva que trois choses. Premièrement, la parcelle de terre où Ruth s'est installée pour glaner appartient à un membre de la famille du défunt mari de Noémie, un homme puissant et riche, nous dit le verset 1. Et oh quel hasard, il arrive justement de Bethléem cet homme pour faire un coucou au moissonneur. Et waouh, on dirait que le Seigneur, ça lui parle. C'est peut-être une manière de se saluer, mais quand même, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur te bénisse. Il se passe quelque chose dans ce champ-là, quelque chose de particulier. Ruth, qui a dit à Noémie « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple », on dirait bien qu'elle n'aurait pas pu mieux tomber. Quand l'auteur écrit « Il se trouve à que », évidemment, il use d'ironie. Ça n'a rien d'un hasard ici. L'auteur, il pointe là vers la providence divine. Il nous indique que ce n'est pas la chance, le destin ou le hasard qui ont amené Ruth dans ce champ-là plutôt que dans un autre. Est-ce qu'on est capable, nous, de reconnaître ces moments de grâce, ces moments de providence dans nos propres vies? Ou est-ce qu'on se réfugie dans l'incrédulité en rationalisant systématiquement la providence qui se présente à nous? Ces petits et ces grands moments-là sont autant d'occasions de remercier Dieu pour sa provision. Et vous voyez, dans ce texte, il ne se passe rien d'extraordinaire en vrai. Rien qu'on ne puisse expliquer par d'autres moyens. On pourrait se dire, après tout, Bethléem, ça ne doit pas être si grand, et puis si Boaz est si, tellement important et tellement riche, il doit avoir une pelletée de champs qui lui appartiennent, et peut-être d'ailleurs qu'il les passe tous en revue chaque jour. Mais encore une fois, quelle tristesse, quoi. Quelle tristesse de ne pas s'ouvrir à la poésie de notre Dieu qui nous permet de le voir, lui, au-delà des circonstances, des heureux hasards, et de se sentir aimé par un Dieu qui prend soin de nous. Alors on pourrait se dire, oui d'accord, mais enfin c'est peut-être triste, mais si c'est faux, si nous nous trompons nous-mêmes pour vivre finalement dans un monde certes extraordinaire, mais qui n'a d'existence que dans nos fantasmes, eh bien je dirais deux choses. La première, c'est que si c'est faux, alors dans ce monde sans Dieu, livré à lui-même, sans poésie et sans transcendance, eh bien, je me serais au moins senti aimé d'un amour qui dépasse toutes les amours humaines. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Qu'est-ce que j'ai à perdre par rapport au pseudo-réaliste qui se noie dans sa solitude et dans son désespoir ? Et la deuxième, c'est que depuis ma propre découverte du quatrième évangile, c'est-à-dire ma découverte de cette présence et de cette providence de Dieu dans ma vie, mais Dieu m'a porté chaque jour. Ce n'est pas une fois que la providence m'est tombée dessus. Il a fait des miracles dans ma vie. Moi qui angoissais à l'idée de quitter ma chambre, il m'a fait quitter mon pays, ma famille. J'ai pu chasser au nom de Jésus les démons de mon existence et vivre une vie de liberté qui m'était inaccessible. Si je devais illustrer ce que j'ai vécu, je dirais qu'à son appel, j'ai marché sur les eaux. Alors, si Dieu n'existe pas, mais franchement, mais c'est encore plus incroyable. Vous imaginez le truc ? Croire qu'une foi qui ne repose sur rien puisse changer à ce point une vie, mais ça demande une foi encore plus grande que la mienne, franchement. Parce que je ne vois rien dans cette existence qui puisse venir à la vie à partir du néant. Il n'y a aucun exemple de cela nulle part. Si donc nous tirons le fil de cette pensée jusqu'au bout, eh bien il faut bien aboutir à un créateur existant de toute éternité. Et donc il m'est beaucoup plus simple, et même je dirais beaucoup plus rationnel, de croire que tout ça vient de Dieu que de croire que tout ça vient de rien. Néanmoins, ce Dieu qui pourvoit ne le fait pas sans nous. Il y a en sous-main des gens qui agissent. Et c'est important de le noter, je crois. La providence n'implique pas l'absence. Noémie ne risque pas de tomber par hasard dans le champ d'un parent de son mari puisqu'elle ne va pas au champ. Pour que ça advienne, il a fallu que quelqu'un agisse. Il a fallu que quelqu'un fasse un pas de foi, un pas d'espérance vers un avenir meilleur. Quelqu'un qui agisse avec l'espoir de trouver une personne qui va lui faire grâce et qui va lui laisser glaner des épis. Et c'est avec cette espérance dans la providence que Ruth, donc, s'est mise en route. Dieu déroule son plan, mais ce plan ne se déroule pas sans nous ni malgré nous. Dieu conduit les circonstances, mais Ruth et Boaz aussi sont à l'œuvre pour que quelque chose se passe. Et comme l'un et l'autre agissent dans la foi, cette rencontre produit un fruit divin. Ruth n'a pas ménagé sa peine. Depuis qu'elle est venue ce matin et jusqu'à présent, dit le serviteur au verset 7, elle est restée debout. Elle ne s'est assise que peu de temps dans la maison. Et ça, alors que Ruth arrive d'un voyage long et fatigant, avec une belle-mère qui a le moral dans les chaussettes, mais elle ne se laisse pas abattre. Elle y va, Ruth. Elle fait ce qu'il y a à faire. Quant à Boaz, il nous est écrit comme puissant et riche. Et c'est intéressant, j'espère que je ne vais pas vous perdre là-dedans, mais le premier terme, effectivement, veut dire puissant, fort, je crois qu'on pourrait dire dans le sens de influent. C'est un homme qui a une belle notoriété, qui est reconnu dans le paysage, il a de l'influence. Mais le deuxième terme, chayil, est trompeur, je crois, dans sa traduction, en tout cas dans la NBS que j'utilise, mais dans pas mal d'autres aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'une richesse matérielle, en fait. Évidemment, Boaz n'était pas pauvre, il est propriétaire terrien, il a des employés, mais le terme désigne bien davantage une richesse intérieure. Boaz n'est pas seulement influent, il est aussi compétent, capable. Dans beaucoup de textes, ce même terme, chayil, désigne des rois ou des hommes de guerre, des combattants, et il est traduit bien souvent par vaillant. Un homme chayil, c'est un homme vaillant. On pourrait même dire un homme viril, quoi. Il y a quelque chose de... C'est un costaud, quoi. Il y va. Mais regardez comme c'est amusant, ou pas, ce même terme, chayil, est utilisé à deux reprises pour parler d'une femme. Le premier lieu où il est utilisé, c'est en Proverbe 31:10. Qui trouvera une femme chayil, demande l'auteur. Son prix dépasse de loin celui des coraux. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. Et il décrit ensuite, cet auteur, une femme forte, une femme travailleuse, courageuse. Et le deuxième lieu où le terme « chayil » est utilisé pour parler d'une femme, eh bien c'est dans le livre de Ruth lui-même, en Ruth 3:11. C'est Boaz qui l'utilise pour qualifier Ruth elle-même. Il lui dit « Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme chayil. » Eh bien, regardez ce miracle de traduction. Pour Louis II, la femme de Proverbe 31 n'est pas vaillante, elle est vertueuse. Tout comme Ruth, qui est vertueuse, là où Boaz, lui, est un homme riche. Alors, d'aucuns verraient là un petit travers sexiste de la part de M. Segond, pas M. Seguin, ça c'est la chèvre, M. Segond. Il faut reconnaître en tout cas que les traductions récentes ont pas mal rectifié le tir. Aujourd'hui, beaucoup de versions, et c'est peut-être le cas dans vos Bibles, hein, en Proverbe 31 et en Ruth 3:11, parlent de femmes de valeur maintenant, ce qui est déjà nettement mieux. Mais pour ma part, je continue de préférer femmes vaillantes, parce que, bah, tout simplement parce que si vous lisez Proverbe 31 et si vous observez dans le livre de Ruth le caractère de Ruth, vous verrez qu'on y décrit bien plus une femme forte, courageuse, entreprenante, travailleuse, qu'une femme de bonne famille qui sait bien se tenir à table. En tout cas, c'est bien regrettable, je trouve, de ne pas garder le parallélisme entre Boaz et Ruth, parce que, personnellement, je trouve très beau de voir comment Boaz, au chapitre 3, reconnaît en Ruth une valeur dont il est lui-même porteur. Vraisemblablement, ces deux-là ont quelques affinités. On verra que ça se confirmera par la suite, mais on ne va pas aller trop vite en besogne. Boaz, donc, est un homme vaillant, qui jouit d'une belle réputation, d'une belle notoriété, et vraisemblablement, cette réputation, cette notoriété, cette influence, il ne l'a pas volée. Parce qu'avec Ruth, ayant appris qui elle est, et la vigueur avec laquelle elle travaille, Boaz va aller bien au-delà de ses obligations. On va voir qu'il va faire preuve de bonté. C'est un homme bon, Boaz. Il va faire preuve de bonté vis-à-vis de Ruth. Il va aller bien au-delà de ce que demande la loi. Il ne va pas se contenter de la laisser glaner les épis que ses serviteurs voudront bien, peut-être, laisser tomber de temps en temps. Il va la prendre sous son aile. Il l'invite à ne pas aller dans un autre champ, mais à rejoindre ses servantes. Il l'entoure de femmes. Il interdit aux hommes de la toucher et il lui permet d'aller boire ce que les serviteurs auront puisé. Alors, ce dernier détail n'a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout l'usage, ça. Normalement, ce sont les étrangers qui devaient puiser l'eau pour les Israéliens, pour les Israélites, pardon, et ce sont les femmes qui devaient puiser de l'eau pour les hommes. Vous pouvez lire ça en Genèse 24, par exemple, 13 et 14. Donc, très clairement, il place Ruth sous sa protection. Il veut prendre soin d'elle. Et donc, la voilà, la main tendue, espérée par Noémie et par Ruth. Et au fond, ce à quoi nous assistons là, c'est une rencontre entre la foi d'un côté et la grâce de l'autre. Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis une étrangère, demande Ruth. Et Boaz, il explique. On lui a raconté ce que Ruth avait fait pour sa belle-mère. On lui a raconté comment elle a tout quitté pour rejoindre un peuple qu'elle ne connaissait pas. Et Boaz, ça le touche, ça. Ça le touche parce qu'il voit là non seulement une femme vaillante, solide, sur ses appuis, travailleuse, mais il voit aussi une femme de foi. Et ce que ça suscite en lui, c'est une aspiration à ce que Dieu lui rende ce qu'elle a fait, qu'il la récompense pour avoir osé s'engager dans cette voie qui n'était pas la plus facile, qu'il la bénisse parce que, alors qu'elle était dans la détresse, elle a eu l'audace de venir chercher un abri sous les ailes de l'Éternel. Boaz aurait pu se contenter de prier pour Ruth, de lui demander de la bénir, et puis passer son chemin. Il a certainement bien d'autres choses à faire. Mais il a décidé, pour une raison qui lui est propre, d'être participant de la grâce de Dieu dans la vie de Ruth. Parce que là où la foi trace un chemin, la grâce y met la main. au fond, lui aussi reconnaît que cette jeune femme n'est pas arrivée dans son champ par hasard. Nous non plus, nous ne sommes pas arrivés dans cette église par hasard, dans cette communauté, les uns à côté des autres, pour vivre ensemble notre foi commune en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas réunis ici par hasard. Au milieu de nous, il y a des Boaz, au milieu de nous, il y a des Ruth. Et à vrai dire, on est souvent tantôt l'un, tantôt l'autre, selon les domaines, selon les périodes de notre vie aussi. Parfois, nous nous trouvons dans la posture et dans la capacité de faire grâce à l'autre, et parfois, nous nous trouvons dans la nécessité de la foi et dans l'attente de celui qui va nous faire grâce. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a des rendez-vous divins à vivre entre nous-mêmes. Je vous ai invité au début de cette prédication à reconnaître la providence de Dieu dans vos vies. C'est évidemment un bon premier pas, mais je voudrais aussi vous inviter très concrètement, comme le fait Ruth, à vous mettre en route si vous êtes dans la difficulté. Cette semaine, fais ce pas qui te coûte, mais dont tu sais qu'il est juste, qu'il est nécessaire pour sortir de l'ornière. Ce pas, ce n'est pas juste une question administrative à régler, ce n'est pas juste un coup de fil à passer, ce n'est pas juste une démarche à accomplir sur laquelle tu es là à procrastiner, c'est bien plus que ça, ce pas, c'est un pas de foi. C'est un pas de foi qui te mènera peut-être vers le Boaz, qui amènera dans ta vie la grâce de Dieu. Et finalement, c'est peut-être toi le Boaz d'un autre. C'est peut-être toi qui vas avoir à protéger, à faciliter, à encourager quelqu'un cette semaine en témoignage de la grâce du Seigneur. Peut-être que tu sais qui est la Ruth qui a atterri dans ton champ de mission. Et si c'est le cas, voici, là où tu vois la foi glaner un épi, fais-toi agent de grâce et multiplie. Je vais prier. Seigneur, tous nous passons dans nos vies par des moments de détresse, des moments où nous sommes dans le besoin et où nous dépendons exclusivement de ta grâce. Ta grâce qui s'exprime à travers bien souvent les gens qui nous entourent, les gens qu'on va rencontrer. Seigneur, tu nous demandes aussi d'agir, de ne pas rester inerte en attendant que les choses tombent directement dans notre bouche. C'est pas comme ça que les choses se passent, Seigneur. Tu nous invites à marcher dans la foi et donc à nous lever et à agir. Peut-être à tâtons, peut-être sans trop savoir ce qui va se passer, mais Seigneur, nous voulons croire en ta providence, comme elle est arrivée pour Ruth. Nous voulons croire qu'en nous mettant en mouvement, à un moment donné, Seigneur, nous serons au bon endroit et au bon moment. Parce que toi, tu agences les circonstances pour que ces choses-là arrivent. Nous le constatons dans nos vies, nous le constatons dans ta parole, Seigneur, et nous voulons placer notre foi dans cette parole qui nous parle de ces moments où ton nom n'est même pas prononcé, peut-être que ta grâce s'exprime même par des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, mais où on peut reconnaître à nouveau tes pas dans la neige fraîche de nos vies. Peut-être qu'on ne te voit pas directement, qu'on ne t'entend pas directement, mais on voit que tu es passé par là et que tu as préparé le terrain pour que tout soit agencé comme il faut, pour que les choses nous soient facilitées. Mais tu nous demandes de nous mettre en route, Seigneur. Alors, à tous ceux qui sont abattus ce matin, je te prie de donner cette grâce, vraiment de les encourager à faire ce premier pas qui coûte, mais qui est le premier pas vers le bon champ que tu as prévu pour eux dans leur vie. Je veux te prier aussi pour toutes celles et tous ceux qui autour de nous sont dans la difficulté et que nous voyons, nous le savons. Tu nous as placés ici les uns à côté des autres, dans un même champ, je dirais. Tu nous as placés les uns à côté des autres pour que nous prenions soin les uns des autres, pour que nous soyons aussi ceux qui facilitent, ceux qui encouragent, ceux qui aident, ceux qui sont là au moment opportun. Seigneur, ouvre nos yeux sur la situation de nos frères et de nos sœurs, ceux qui nous entourent, pour que nous puissions, nous aussi, entrer dans cette délicieuse mission qui est le fait d'être un agent de ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas détourner le regard, nous ne voulons pas nous précipiter. On a parlé effectivement du repos la dernière fois, Seigneur, et bien dans ce repos, nous pouvons entendre ta voix. Et bien, quand nous entendons ta voix, Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner, nous ne voulons pas fermer nos oreilles. Seigneur, je te prie de parler à chacun dans la situation qui est la sienne au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.